Bonjour, chers amis. Nous sommes le 18 mars 2012. Je vous parle du Vietnam. Et je suis dans un café parce que ce sont les places où je peux être sur Wi-Fi pour pouvoir me connecter sans que ça coûte trop cher. Et c'est un grand plaisir de vous avoir avec moi ici. Aujourd'hui, nous en sommes à la 7e causerie sur le thème des 4 établissements à la pleine conscience. Avant d'y aller, j'aimerais aussi vous mentionner que pendant qu'on se parle à Deer Park, il y a une grande retraite pour les Dharma teachers, les enseignants du Dharma dans notre tradition, qui se rencontrent une fois aux 2 ans. Et pour la première fois, Thay les a autorisés à transmettre la lampe pour les nouveaux enseignants du Dharma en son nom. Alors, pendant qu'on se parle, il y a une cérémonie de transmission de la lampe pour 14 nouveaux enseignants du Dharma. Parmi les 14 enseignants, il y en a deux qui font partie de nos de notre réseau d'amis. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais à la Maison de pleine conscience de Montréal, l'Institut, nous sommes reliés de façon très close, de façon très proche, avec une quinzaine de sanghas aux États-Unis, des sanghas que j'ai créés et que j'ai la chance de continuer de soutenir à distance. Et hier, la même conférence, le même thème a été donné par Skype, par GoToMeeting, à 12 communautés aux États-Unis. Alors donc, deux de ces communautés auront leur enseignant du Dharma, de la même façon que maintenant à l'Institut, nous avons Lily. Et donc, c'est un grand pas, c'est un grand jour pour moi, pour nous. Et je voulais vous partager cette grande nouvelle. Nous sommes en train de traverser à Montréal une crise de croissance. Je suis la communauté de Montréal à distance. Je suis très présent et je suis partagé, je suis divisé. D'un côté, je suis très, très content de ce que nous faisons à l'Institut. Avec le cours de cuisine, avec le cours de yoga, avec le cours ou l'atelier que Robert va donner avec sa conjointe, avec les cours que Lily donne les mercredis soirs, que les mardis soirs, avec le cours de sommeil. Donc nous avons un programme qui est très diversifié et je suis très heureux de suivre le développement et de voir que nos espoirs commencent à se manifester et à se réaliser. Et donc, merci à tous les amis qui sont là pour pouvoir rendre ces choses-là possibles. C'est une pratique, la pratique de pleine conscience est, selon moi, quelque chose qui est très important et qui est un grand besoin pour notre société. La société de Montréal que je connaissais, que nous connaissons, Mais je me suis aperçu aussi pendant mon séjour ici, des 3-4 derniers mois, que c'est aussi une grande nécessité pour les personnes d'ici. Donc, je suis heureux que Montréal, pour Montréal, qu'on ait pu avoir les moyens, la communauté, le local, l'expérience, l'enseignement que nous avons eu depuis 20-25 ans et qui nous permet de pouvoir bénéficier des bienfaits de la pratique et qui nous permet aussi de pouvoir la partager et qui nous permet aussi de pouvoir mieux pratiquer avec une communauté et des nouveaux amis qui se joignent à nous. Donc c'est une bénédiction, c'est un grand avantage, mais qui comporte aussi une grande responsabilité. Et c'est pour ça, de ça que je voulais vous parler. L'Institut se veut être un centre qui offre une pratique de pleine conscience, dans le but d'aider les amis qui viennent à pouvoir alléger leur souffrance. La seule façon que cette pratique peut aider à soulager, c'est qu'elle soit une pratique profonde et réelle. Nous devons être très conscients de ce que nous projetons comme image. Nous devons être très conscients de ce que les personnes qui viennent pour pratiquer chez nous recherchent. Nous devons être très conscients de ce que nous avons à offrir. Selon moi, la seule chose que nous avons à offrir et qui en vaut la peine, c'est notre vraie pratique. Si nous n'avons pas cette vraie pratique, les personnes qui viennent pour pratiquer avec nous vont s'en apercevoir et seront très déçues. Et c'est beaucoup mieux de ne pas être là, de ne rien enseigner, que d'enseigner et décevoir. Parce qu'une déception est très difficile à surmonter et à passer outre. Donc le thème de cette causerie est un thème qui est très important. À la lumière de, ou bien pour faire suite à ce que je viens de vous parler, la pratique des quatre fondements à la pleine conscience est une pratique essentielle. Et je nous souhaite de pouvoir bien la comprendre, bien l'assimiler et surtout la pratiquer de façon à pouvoir obtenir les fruits de cette pratique qui est une transformation à la base. Nous avons commencé au début de l'année avec l'étude de nous avons commencé l'étude des quatre établissements à la pleine conscience avec l'identification des obstacles que nous pouvons rencontrer pour pratiquer. Nous avons identifié les cinq obstacles comme des obstacles à la pratique que nous voulons faire et les avons aussi identifiés comme les causes de nos souffrances. Les causes d'une souffrance que cette pratique peut aider à alléger. Alors, parce que nous avons ces obstacles, parce que nous avons ces causes ou ces raisons, nous ne sommes pas à notre meilleur, nous souffrons ou nous causons des souffrances et nous causons des souffrances aux autres. Et ce sont ces mêmes choses-là qui sont les causes de souffrance et les raisons pourquoi nous voulons pratiquer, qui sont aussi les obstacles de notre pratique. Et c'est pour ça qu'au début de l'année, je nous avais demandé d'identifier ces obstacles et de les mesurer pour voir comment ils sont présents et comment forts ils sont dans notre propre vie, afin de pouvoir, au cours de l'année, revenir et voir nos progrès ou en fonction de des changements ou de l'amélioration ou de la diminution de ces obstacles. Nous avons identifié comme obstacle l'attachement et l'aversion, l'agitation, le doute, la torpeur comme étant les obstacles de cette pratique. Nous avons ensuite appris ou réappris la pratique de la respiration consciente. La respiration consciente qui fait partie de notre corps, la respiration qui est notre corps, la respiration consciente qui nous permet de pouvoir nous arrêter, la respiration consciente qui nous permet de pouvoir revenir à notre corps, qui nous permet d'être en contact, qui nous permet de pouvoir pratiquer la pleine conscience du corps dans le corps. Et je nous avais mentionné comment cette année j'attache de l'importance à la pleine conscience du corps. Parce que c'est à partir du corps que tout se passe. Ce n'est pas avec notre esprit, ce n'est pas avec, mais c'est seulement avec le corps que, et en travers du corps et par le corps que tout se passe. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous percevons, tout ce que nous ressentons, nos joies, nos douleurs, nos souffrances, se manifestent dans notre corps. Et en retournant dans notre corps, nous pouvons, en apaisant les symptômes ou les manifestations dans le corps, retourner à la source et traiter ou soulager les sources mêmes de sources de mal-être. C'est aussi en travers du corps que je vais mentionner l'illumination. Et je vous avais mentionné que excusez-moi, j'ai une interruption. Chắc em một chút nữa em cần đi anh. Excusez pour l'interruption. nous avons commencé avec le premier établissement, la pleine conscience, et nous avons pris beaucoup de temps cette année pour pouvoir étudier très sérieusement et en profondeur la pratique de la pleine conscience du corps dans le corps. Nous avons regardé comment La pratique de la pleine conscience du corps pouvait nous aider à améliorer notre santé et notre bien-être. Et comment, par la pratique de la pleine conscience à chaque instant de la journée, nous pouvons nous donner cette capacité accrue d'arrêt et de concentration pour pouvoir mieux comprendre le processus de la méditation de pleine en pleine conscience ou de pleine conscience, qui est la même avec que nous pratiquions la respiration, que nous pratiquions l'observation du corps, que nous pratiquions la marche méditative, que nous pratiquions la pleine conscience lorsque nous consommons. C'est toujours ce même processus que nous utilisons ou que nous appliquons à ces différents aspects pour pouvoir mieux affiner et parfaire notre façon de pratiquer. Nous avons le mois dernier pratiqué la pleine conscience des sensations. Et je vous avais mentionné alors que lorsque nous avions commencé l'étude de la pratique de l'établissement de la pleine conscience du corps, nous avons déjà pratiqué la pleine conscience des sensations. Parce que ce sont ces sensations qui nous ont permis de pouvoir être en contact avec notre corps, avec les différentes parties de notre corps pour pouvoir être en contact et pratiquer l'observation. Alors, la pleine conscience des sensations est encore une autre application de la pratique de pleine conscience qui nous permet de pouvoir reconnaître et identifier les sensations qui nous habitent. Et nous avons regardé comment ces sensations sont comme des gouttes d'eau dans une rivière qui se succèdent, et que notre pratique ou la pratique du Bodhisattva Avalokita consistait à identifier, reconnaître et observer chacune de ces gouttes d'eau qui naît, qui se manifeste et qui dure un certain temps et qui disparaît pour être remplacée ou bien pour faire place à une autre sensation. Nous avons identifié les sensations plaisantes, déplaisantes et les sensations neutres. Nous avons pratiqué l'identification des sensations neutres pour pouvoir les transformer en sensations plaisantes et, manifester ce que j'appelle le miracle de la pleine conscience. Nous prenons trop souvent pour acquis les choses qui vont bien et l'enseignement que nous avons pratiqué ensemble durant le mois s'appelle la pratique du non-mal de dents. Nous savons comment nous pouvons souffrir lorsqu'une dent nous fait mal, mais et combien c'est plaisant lorsque le mal de dents disparaît, et comment nous sommes contents lorsque nous n'avons plus ce mal de dents. Mais ce plaisir que nous ressentons ne dure pas très longtemps, et nous oublions. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais c'était la cloche de mon ordinateur. Donc les sensations neutres, le non mal dedans, est une pratique merveilleuse qui nous permet de pouvoir être très heureux, juste en reconnaissant par la pleine conscience toutes les conditions de bonheur qui nous sont déjà disponibles à chaque instant. Le reconnaître, en être heureux, en être reconnaissant et se nourrir de cette joie lorsque nous pouvons reconnaître toutes ces conditions de bonheur qui sont déjà en nous et qui sont toujours disponibles et que cette pratique, la pratique de la pleine conscience qui nous permet de nous arrêter et d'être en contact avec tout ce qui est, ce qui va bien, ce qui va moins bien, et ce qui ne va ni bien ni mal, mais en fait qui va très bien parce que ça ne va pas mal. Alors, pour faire suite à cette, la pratique des sensations, reconnaître, identifier et qualifier chaque sensation qui passe. Est-ce que c'est une sensation plaisante? Est-ce que c'est une sensation neutre? Si c'est une sensation neutre, la transformer pour que ça devienne une transformation, pour que ça devienne une sensation plaisante. Si c'est une sensation déplaisante, l'identifier, la reconnaître, la qualifier de non plaisante, l'embrasser, ne pas la rejeter ni la supprimer, mais l'observer pour pouvoir en reconnaître les causes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cette sensation m'est déplaisante? Juste reconnaître afin de pouvoir voir, en voir les causes. Et aussi les effets. Parce que ce que nous pouvons considérer comme sensation plaisante peut nous amener à un désir et une addiction. Et une addiction peut transformer, va transformer une sensation plaisante en une sensation très déplaisante. Lorsque nous n'arriverons plus à satisfaire les désirs que notre attachement ou notre recherche des sensations plaisantes nous occasionne. Donc, si nous ne pratiquons pas ou si nous ne savons pas comment pratiquer la pleine conscience des sensations, les sensations plaisantes ou les choses qui nous procure des sensations plus plaisantes. Thay a pris l'exemple d'une gorgée de scotch ou de whisky ou d'une bouffée de cigarette et comment ces sensations plaisantes se tournent, peuvent se tourner en addiction. Et lorsque c'est une addiction qui nous pousse à rechercher les conditions de ces sensations plaisantes qui ne peuvent pas toujours être satisfaites, que ça causera des difficultés et des problèmes, non seulement sur notre santé, mais également sur notre désir sans cesse renouvelé et jamais satisfait. Les sensations déplaisantes ou les sensations plaisantes, regardez pour voir quelles en sont les causes et les racines et aussi quelles peuvent en être les effets à long terme. Donc, nous avons, avec les sensations, appris le deuxième fondement, le deuxième établissement, la pleine conscience. Aujourd'hui, nous allons passer à la troisième, au troisième établissement, la pleine conscience. Souvent, ou dans les textes, Le troisième serait l'esprit. Mais cette année, j'avais pensé vous proposer de continuer les sensations avec les formations mentales. J'ai trouvé que les sensations et les formations mentales faisaient mieux suite l'un pour l'autre que l'esprit. L'esprit englobant tout, nous pourrons le faire en dernier. Alors, sensation, formation mentale. Lorsque nous récitons le cœur de la Prajnaparamita, nous parlons des 18 éléments. Les 6 organes des sens, les 6 objets de sens et les 6 consciences. Les 18 éléments qui définissent tout notre univers. C'est ça, je vous demandais si vous entendirez, si vous entendiez le bruit de fond. Je suis sur le bord de la route, alors il y a des voitures qui passent. Il y a des fois des lézards qui font le matin, il y a des coqs. Et tantôt, vous avez, j'imagine que vous avez entendu la belle musique du café qui a arrêté. C'est pour ça que je me suis arrêté, parce que d'habitude, il ferme plus tard que ça et je voulais pas qu'il ferme le Wi-Fi. Donc, non, donc le Wi-Fi est là pour nous permettre de finir la conférence. Voilà, ça c'est une motocyclette. Et je suis à Vũng Tàu, c'est beaucoup plus calme que Saigon. Saigon, à cette heure-ci encore, il y a beaucoup plus de trafic qu'il y en a ici. Oui, il faut s'assurer de bien barrer la porte pour ne pas perdre encore un autre manteau. Les 5 entraînements à la pleine conscience sont très importants pour tout le monde. Pendant la discussion du Dharma, peut-être que Georgette et Monique pourront mieux vous répondre, ou bien pourront vous répondre si vous avez des questions sur les 18 Realms of Elements, les 6 organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit, les 6 objets des sens, les formes, le son, l'odeur, le goût, le toucher et les objets de l'esprit. Et les 6 consciences sensorielles qui définissent notre univers. Dans le bouddhisme, en plus de ces 18 éléments, nous avons aussi les consciences de manas et les consciences de tréfonds, les 7e et 8e consciences. Et nous avons eu la chance d'apprendre en profondeur les 50 versets sur le fonctionnement de l'esprit. Et je pense que si vous avez des questions sur l'Abhidharma, vous pourrez peut-être les poser à Georgette et à Monique pendant la discussion de cet après-midi. Mais c'est un concept qui peut nous permettre à bien comprendre le sujet d'aujourd'hui, l'observation des formations mentales. Donc, comme définition de formation mentale, il y a deux mots, formation. Formation, c'est-à-dire un ensemble, une combinaison de différents éléments. Mental, parce que ce n'est pas une formation physique comme notre corps ou bien comme le building qui nous abrite, Mais c'est quelque chose qui est au niveau de l'esprit et c'est pour ça que nous appelons ces choses que nous voulons observer aujourd'hui ou pratiquer la pleine conscience de formation mentale. Lorsque les yeux rencontrent un objet, ça s'appelle la reconnaissance pure et simple. Le premier contact entre l'objet ou entre la forme et les yeux et qui se manifeste au niveau de la conscience visuelle. Mais avec la force de notre esprit, avec le septième et les huitièmes consciences, ça ne s'arrête pas là. Ça se traduit par une formation qui prend vie d'elle-même et qui se nourrit avec ceux qui l'ont déjà précédé. On rencontre une personne pour la première fois. On la regarde et on se sent attiré par cette personne ou on se sent rejeté ou on... Alors donc c'est l'attraction ou le rejet et nous ne comprenons pas pourquoi. En fait, nous ne comprenons pas parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé entre l'instant du premier contact, entre les yeux et la forme, et les idées qui se sont formées après ce premier contact. Nous sommes attirés par cette personne parce que elle ressemble à une autre personne que nous avons déjà connue dans notre vie et que nous aimons. Notre mère, par exemple. Nous rencontrons un monsieur et nous avons beaucoup de sympathie pour ce monsieur parce qu'il nous rappelle notre grand-père qui nous a donné des bonbons à chaque fois qu'on était puni par nos parents. Et donc, toutes ces choses-là qui font partie de notre expérience contribue à notre interprétation de ce que nous percevons par nos six sens. Nous entendons un mot ou une phrase. Nous sommes irrités. Une autre personne entend la même phrase ou le même mot et ça ne lui fait absolument rien. La différence entre nous qui réagissons et une autre personne qui ne trouve rien à redire, c'est le bagage que nous portons à l'intérieur de nous. C'est le bagage de formations mentales qui sont devenues des nœuds. Et que nous portons à l'intérieur de nous, et qui font de nous ce que Thay appelle des fois des bombes ambulantes. Dans notre environnement, nous avons rencontré ces personnes, car rien met en colère. Et ils le reconnaissent. Et ils le savent. Ils se promettent de ne plus jamais se laisser prendre ou dans ce genre de situation, mais ils sont impuissants et même s'ils le reconnaissent, même s'ils le veulent, aussitôt que quelque chose arrive, ils explosent. Et la raison pourquoi ils sont devenus comme cela? C'est parce qu'ils n'ont pas su gérer ou traiter les formations mentales au fur et à mesure qu'elles se développaient et qu'ils ont permis à la naissance, à l'agglomération de nœuds. Je ne trouve pas de traduction pour le mot. En anglais, c'est knot, Knot. Et ce sont des choses que nous portons à l'intérieur de nous et que nous et qui sont là, toujours en veilleuse, en latence. Et aussitôt qu'un événement similaire ou proche arrive, ce nœud se manifeste au niveau de la conscience de l'esprit et nous fait faire et dire, faire des choses, des actes et commettre des actes et dire des paroles que nous regrettons, mais dont nous n'avons aucun contrôle. Un exemple. Nous sommes avec une personne. Et Thay prend l'exemple de deux jeunes mariés. Le mari peut avoir des mauvaises habitudes qui sont irritantes pour sa femme. Ça peut être des mots, ça peut être des gestes. Mais au début de la relation, la femme peut ou veut passer outre et n'en parle pas. Mais à chaque fois que le mari redit la même parole ou recommet le même acte, l'irritation devient plus forte. Jusqu'à un certain moment où ce n'est même plus cette parole ou cet acte qui était à l'origine de son irritation. Toute autre chose qui peut venir, provenir de cette personne devient irritante. Nous nous retrouvons des fois dans des situations que nous n'aimons pas. Mais nous nous disons, oh, ce n'est pas grave, ça va passer et c'est correct. Et Thay nous met en garde contre cette façon de penser. Et nous dit que tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas compris pourquoi nous avons eu cette sensation d'irritation ou de colère ou de... Si nous n'avons pas compris la raison et que nous passons outre, nous venons de nous créer un nœud. Et lorsque si la situation se répète ou des situations similaires se répètent, le nœud va continuer de grandir. Et il arrivera un moment donné où nous ne pourrons plus supporter cette chose-là et que c'est beaucoup mieux de toute façon de comprendre ou bien de rétablir les choses afin que ça ne devienne pas un nœud. Selon l'enseignement, selon Thay, toutes nos les nœuds que nous avons ou que nous nous sommes créés ou que nous avons créés dans les autres ont pour origine un nœud qui s'appelle l'ignorance ou la confusion. Nous prenons comme exemple, si nous prenons comme exemple les deux frères. Donc le frère aîné se lève de bonne heure et se prépare pour aller à l'école. Et lorsqu'il était prêt à partir, il s'aperçoit que son jeune frère est toujours au lit. Il ne veut pas que son jeune frère soit en retard à l'école. Il vient et le réveille doucement pour lui rappeler que c'est l'heure de se lever et d'aller à l'école. Et le le jeune frère, au lieu de le remercier, le chicane ou lui profère des insultes. Il est très fâché, il quitte la maison en se disant, bon, ben, si c'est comme ça, tant pis pour toi, puis tu vas être puni, puis ça va être bien fait, et blablabla, puis une grosse colère à l'intérieur de lui. Mais en traversant la porte, il s'est souvenu que pendant la nuit, il a entendu son frère tousser. Il s'est dit peut-être que mon frère est malade et c'est pour ça qu'il n'a pas pu se lever. Et donc, il est retourné pour vérifier. Et en touchant son frère, il s'est bien aperçu que son frère faisait de la fièvre. Et toute la colère qu'il a eue en quittant, maintenant qu'il reconnaît ou bien qu'il sait que son frère est malade, sa colère disparaît et se transforme en compassion. Donc, la colère était créée par une mécompréhension, par une confusion, parce qu'il croyait que son frère était paresseux, parce qu'il croyait que son frère était impoli, etc. Et c'est ça qui l'a fâché. Mais lorsqu'il a compris, lorsqu'il a vu pourquoi son frère était comme ça, et qu'il était comme ça parce qu'il était malade, il a compris et sa colère, son irritation s'est transformée en compassion et il n'y a aucun nœud qui peut se former ou bien un nœud qui aurait pu se former n'est plus parce qu'il a pu comprendre. Alors l'enseignement de l'observation des sensations de la même façon que l'observation des formations mentales ou la vigilance pour que les formations mentales ne se concrétisent ou bien ne se transforment en nœuds consiste à les identifier et à les regarder afin de pouvoir les comprendre et ne pas les pousser dans l'oubli, les opprimer ou les supprimer. Si vous avez eu la chance de lire le livre Transformation et guérison, sur ce chapitre, Thay a identifié cinq nœuds, la confusion, le désir, la colère, la fierté et le doute. Et comme tous les nœuds, ces cinq nœuds et les cinq autres qui concernent les visions, les vues non justes, peuvent se resserrer et peuvent aussi se défaire. Un nœud se défait en fonction de la façon dont notre esprit reçoit, perçoit les impressions sensorielles. Une fois que cette impression sensorielle prend forme, c'est de l'identifier dès qu'elle se manifeste, de la suivre pendant son évolution et sa présence au niveau de notre conscience de l'esprit. Et la suivre, mais sans la laisser disparaître avant d'avoir pu la comprendre pour ne pas qu'elle atterrisse dans notre conscience de tréfonds comme un autre nœud ou comme un resserrement d'un nœud qui y est déjà. L'exemple du garçon avec son jeune frère, c'est un exemple que nous rencontrons et qui nous arrive, je pense, très souvent dans notre vie de chaque jour. Nous rencontrons quelqu'un ou bien quelqu'un nous dit une parole déplaisante ou a une attitude déplaisante envers nous. Notre réaction en général, c'est une colère ou une irritation, Et la colère et l'irritation qui se manifestent parce que nous rencontrons quelqu'un qui nous agresse, renforce ou bien resserre des nœuds que nous avons à l'intérieur de nous déjà, que nous portons à l'intérieur de nous et qui s'appellent colère ou qui s'appellent irritation. Et la pratique, c'est d'essayer de ne pas d'en comprendre les raisons, la motivation, de comprendre pourquoi cette parole ou cet acte nous cause cet effet, et aussi comprendre pourquoi l'autre personne que nous pensons être responsable de ces sensations qui nous habitent, de voir qu'elle n'est pas entièrement, qu'elle n'est pas toujours pleinement consciente de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle est en train de dire ou de faire. J'ai pris l'exemple une fois d'un pêcheur qui était sur sa barque, sur sa petite barque sur une rivière. Là, elle voit un grand bateau arriver directement dans sa direction. La chaloupe, il se retrouve à l'eau. Et il était très en colère jusqu'au moment où il s'aperçut que le bateau qui l'a renversé était. Il n'y avait personne à bord et que c'était un bateau non piloté. Et lorsqu'il a vu cela, sa colère a disparu parce que il n'y avait vraiment aucune personne de responsable et qu'il ne pouvait pas tenir le bateau comme responsable. Et lorsque j'avais parlé de cet exemple, j'avais mentionné que dans ma vie, j'essaie du mieux que je peux. Lorsque je me sens agressé, de regarder mon agresseur comme ce bateau sans pilote qui ne sait pas exactement ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Et de ne pas lui en tenir rigueur et de ne pas non plus prendre ses paroles et actions comme des attaques personnelles à mon égard. Je pense que si nous pouvons regarder nos agresseurs de cette façon, nous verrons que la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps, les personnes que nous considérons nos agresseurs ou la cause de notre irritation, de notre colère, le font parce que elles sont animées, parce qu'elles sont motivées, parce qu'elles sont poussées par des forces, par des énergies qu'elles ne contrôlent pas, parce qu'elles ne les comprennent pas, ou parce qu'elles n'ont pas appris, qu'elles n'ont pas appris et su comment les gérer. Que comme nous, parce qu'ils n'ont pas la pratique de la pleine conscience et la pratique de la transformation et qu'ils ne sont pas parvenus à transformer leur énergie d'habitude, parce qu'elles portent encore tous ces nœuds à l'intérieur d'eux ou d'elles, que nous avons pu inconsciemment nous-mêmes exciter, activer, pousser sur certains boutons dont ni nous ni l'autre personne peuvent être responsables. Je me prends comme exemple. Je suis devenu un enseignant du Dharma par un concours de circonstances. Je suis l'enseignant de la maison de pleine conscience et à l'institut. Plusieurs de nos amis m'aiment beaucoup et acceptent et trouvent tout ce que je fais ou je dis que ça leur plaît. Les mêmes paroles, les mêmes gestes que je pose n'ont malheureusement pas le même effet bienfaiseur ou bienfaiteur pour tous les amis de l'institut. Ça me désole des fois, souvent, mais j'essaie de me consoler pour me dire que je n'y suis pour rien et que je ne peux pas être responsable des formations internes ou des nœuds que mes amis de pratique ont à l'intérieur d'eux et d'elles. Ainsi, si ma présence, mes paroles ou mes actes suggèrent ou rappellent une personne qui, dans le passé, aurait abusé, violenté, agressé cette personne, c'est tout à fait normal que cette personne, en me voyant, puisse avoir des sensations ou des sentiments de méfiance ou même agressifs à mon égard. Non pas parce que je suis, mais parce que je peux rappeler ou suggérer ou exciter ou faire manifester à l'intérieur de ces personnes. Je me prends comme exemple, mais chacun de nous peut faire le même exercice de réflexion. Pourquoi cette personne suscite en moi ce genre de sensations et de sentiments? Pour voir comment dans notre vie passée, nous avons accumulé des expériences et que nous avons opprimé, poussé à l'intérieur de notre conscience profonde, et qui nous font agir et réagir d'une telle façon que nous ne comprenons même pas pourquoi, que nous ne pouvons plus comprendre pourquoi, parce que nous sommes animés par ces sensations, ces énergies d'habitude, et nous agissons sous le contrôle de ces choses dont nous ne comprenons pas la portée et la puissance. Les sensations déplaisantes dont je parle, les sensations d'irritation, de colère ou de crainte ou de peur que je peux susciter, sont des choses qui peuvent nous aider, qui sont des fils conducteurs qui peuvent nous amener, retourner à l'intérieur de nous pour pouvoir comprendre. Non pas comprendre pour pardonner à Chen Hui, ou pour ne pas en vouloir à Chen Hui, ou pour mieux aimer Chen Hui, mais retourner à l'intérieur de nous pour comprendre notre histoire, l'histoire de notre vie, pour comprendre ce qui nous fait aimer, ce qui nous fait attirer, ce qui nous fait rejeter. Et souvenez-vous des premiers obstacles que nous avons identifiés. L'attrait et le rejet ne peuvent ne rien avoir avec la personne ou l'événement dont nous sommes sujets actuellement, mais utiliser ces sensations d'attachement, d'attraction et de rejet pour pouvoir nous aider à retourner à la source, retourner à l'intérieur de nous pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé dans notre vie, qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis pour que nous ayons ce genre de sensations et de sentiments. Chaque événement qui arrive dans notre vie, que nous n'aimons pas ou que nous ne souhaitons pas ou qui nous affecte, sont des indices, sont des indications de choses que nous pouvons découvrir par notre pratique de l'observation des formations mentales. Nous allons y reconnaître nos énergies d'habitude. Nous allons y reconnaître les énergies d'habitude qui nous ont été transmises. C'est ce travail d'observation et de découverte qui nous permettront de pouvoir nous transformer afin de ne plus être sujet à ces forces et ces tiraillages de l'intérieur et qui nous font perdre le contrôle et la raison. C'est un exercice très profond et je vous demanderai d'y accorder beaucoup d'attention, d'y penser afin de voir comment dans notre vie de tous les jours nous pouvons identifier les situations, les personnes, les événements qui peuvent nous aider à mieux nous comprendre, mieux nous découvrir, afin de pouvoir mieux comprendre qui nous sommes et pourquoi nous sommes sujets à ce genre d'action ou de réaction que nous ne comprenons pas. C'est la transformation qui nous permettra de pouvoir nous libérer des conditions que nous mettons à notre bonheur et qui nous empêchent de pouvoir être libres et légers. C'est un sujet qui est encore, comme je vous le mentionne, très important et le temps que nous avons ne me permet pas de pouvoir en parler davantage. Je vous suggérerais peut-être aussi de regarder une énergie d'habitude qui est très profonde, le désir sexuel. D'où nous provient ce désir? Comment il s'est transmis de nos premiers ancêtres jusqu'à nous? Comment, à cause, ou bien comment dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons eu à opprimer ou supprimer ou pousser ces désirs à cause de normes sociales? Comment cette énergie sexuelle, cette énergie d'habitude sexuelle est toujours très présente en nous et que par conformité avec les normes de la société, nous continuons de les opprimer de façon inconsciente. Et comment ces énergies opprimées ou supprimées continuent de se manifester et comment elles continuent de chercher à pouvoir se manifester. Nous parlons du même phénomène, les formations mentales, les nœuds, les énergies d'habitude. Les nœuds qui sont causés par des formations opprimées, supprimées. Et dans le livre de Thay, il donne également il donne un autre exemple qui est très, très significatif de de notre vie et des situations dans lesquelles nous nous trouvons. où nous pouvons nous trouver. Une mère avec sa jeune fille en âge dans la vingtaine qui est en âge de se marier. La mère ne veut pas perdre sa fille parce que pour sa sécurité, elle ne veut pas se ramasser tout seule. Donc elle veut garder sa fille avec elle et elle ne veut pas qu'elle se marie pour ne pas perdre sa fille. D'un autre côté, elle veut le bonheur de sa fille et elle voudrait que sa fille se trouve un mari qui puisse être à la hauteur ou bien qui puisse être un bon mari pour elle. Alors, la maman vit dans ce conflit éternel. D'un côté, elle veut pour elle, d'un autre côté, elle veut pas pour sa fille. La fille, de la même façon, par amour pour sa mère, ne veut pas la laisser et donc ne veut pas se marier, ou bien essaie de détourner son attention de cette possibilité. Mais d'un autre côté, son corps et son être lui crient qu'elle doit être en couple parce que nous sommes nés comme des êtres d'une colonie. Avec cet instinct de survie de la colonie, cet instinct qu'ont les hommes pour rechercher une femme et que la femme a pour avoir un mari, nous provient de cet instinct de survie qui date de la naissance de notre espèce, du début de notre espèce et que nous avons encore en nous. Alors il y a l'amour pour la mère que la jeune fille ne veut pas laisser par compassion et par amour. Et il y a ce cri animal en elle, dans son corps, qui lui crie d'aller se chercher un homme. Et c'est encore un conflit éternel. Et comment ce conflit se manifeste? La mère, par crainte, peut dire des paroles qu'elle ne veut pas. La fille peut poser des gestes qu'elle ne veut pas. Et en le faisant, se créent des formations internes et des nœuds. Et en fin de compte, même s'ils sont ensemble au début parce qu'elles veulent le bien-être de l'une et l'autre, finissent par ne plus pouvoir se supporter ou bien d'être paisibles ensemble sous le même toit. Donc, pour vous dire que c'est un sujet très important et je suis très heureux d'avoir eu la chance d'y repenser pour vous en reparler aujourd'hui, pour vous en parler aujourd'hui. Merci d'être là. C'était la cloche de minuit. Et c'est midi pour vous. Bon appétit, bonne continuation de journée de pleine conscience, bonne pratique, jusqu'à ce que nous nous revoyons le mois prochain. Merci beaucoup.